Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Willy Kalenga, il est journaliste, il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Bonjour Willy Kalenga.
Bonjour Guy Maté, bonjour Radio Capri, bonjour aux auditeurs.
Placide Nzilamba, il est membre de la société civile du Nord Kivu. Bonjour Placide Nzilamba.
Bonjour Guy Maté, bonjour co-débatteur avec lequel on va partager ce débat.
Et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Waltoff, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Bonjour Madame Stéphanie Waltoff.
Bonjour Guy, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Merci à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Willy Kalenga, il est journaliste et il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Placide Nzilamba, il est membre de la société civile du Nord Kivu et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Stéphanie Waltoff, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Au menu de cette émission, analyse sur les chances du gouvernement souminois au regard des défis actuels. La SAMIR RDC, les périls d'une approche principalement militaire, quid du processus de Luanda, et enfin la présence de l'EDF dans les territoires des Lubero, les dynamiques de la guerre menée par le M23 RDF, ASC et la position du gouvernement de la RDC. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire sur la 19e édition de la DRC Mining Week qui se tient à Lubumbashi. En effet, la 19e édition de la DRC Mining Week, semaine minière de la RDC, s'est ouverte mercredi 12 juin à Lubumbashi dans les Haut-Katanga, autour du thème de la priorisation des pratiques minières durables et la transformation locale en RDC. Ce forum économique de 3 jours, organisé par la firme sud-africaine Vuka Group, réunit des leaders de l'industrie, des responsables gouvernementaux et parties clés afin de discuter de l'avenir de l'exploitation minière en RDC. D'après les organisateurs, cette édition s'est fixée pour objectif de renforcer la position de la RDC en tant que destination minière de premier plan. La 19e édition de la séminaire minière de la RDC met l'accent sur les investissements dans le secteur de l'énergie. Il s'agit de réfléchir sur des solutions au problème du déficit en énergie. Willy Kalenga, je précise que vous prenez part, n'est-ce pas, à ces forums à Lubumbashi, d'où vous intervenez. Cette 19e édition de la DRC Mining Week s'organise autour du thème de la priorisation des pratiques minières durables et la transformation locale en RDC. Au sujet de ces thèmes, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Il faut d'abord souligner que cette semaine a été importante et cette organisation s'est donné les moyens d'une excellence dans les débats. il y a eu effectivement une amélioration, en tout cas qualitative, sur les participants, parce que prioriser les investissements durables dans notre pays, c'est en réalité trouver les synergies entre les différents intervenants. Le secteur des ressources naturelles a évolué, et en tout cas pendant très longtemps, comme un secteur isolé des autres secteurs. Il fallait d'abord le connecter au secteur marchand, à tous les autres secteurs, mais surtout aussi trouver des solutions locales à des problèmes locaux, notamment la question de l'énergie. Nous avons un potentiel important dans le domaine de l'hydroélectricité et les participants ont compris qu'il y avait non seulement des banques qui ont décidé de s'investir, il y a les opérateurs, donc il y a les moyens. Ce qui manquait, c'était cette volonté économique, cette volonté importante pour que l'on puisse donner à ce secteur des ressources naturelles le moyen de sa pérennité. C'est donc une occasion importante qui a été donnée à tout le monde de s'expliquer. Les débats ont été houleux, mais ont été clairs et précis. Je pense que si ce qui a été décidé ici se met en place, non seulement nous allons avoir l'émergence de Congolais dans le secteur des mines, mais nous aurons aussi des infrastructures qui vont répondre aux besoins sociaux de la population.
Merci, Placide Nzilamba. Vous êtes dans une province minière, le Nord Kivu, qui fait l'objet, n'est-ce pas, des combats à cause notamment de ces minerais. Que peut vous inspirer ces forums économiques sur l'avenir de l'exploitation minière en RDC?
Merci Guy pour la parole. Je salue le journaliste qui vient d'intervenir tout à l'heure, Kalengai.
Oui, Kalengai.
Je dis que, oui, Kalengai, effectivement. Donc, je dis que la province Nord Kivu, effectivement, c'est une province aussi minière, mais en proie à des conflits liés à ces mêmes ressources minières. Alors, à notre niveau, c'est dire qu'il faudrait aussi aborder la question de la sécurité, au fait, pour une exploitation minière responsable. Comprenez que cette guerre est menée aussi pour semer un peu de cacophonie, en fait, que le secteur de l'extraction minière soit ne plus que dominé par des fraudeurs et toutes les autres bandes de criminels qui rôdent autour des zones minières. Alors, pour plus de responsabilité, même de traçabilité, et même de bénéfices sur les communautés locales, il faut un secteur minier assaini et extirpé de tous les facteurs de sécurité.
Merci, Madame Stéphanie Waltoff. Nous l'avons dit, cette 19e édition de la DRC Mining Week se fixe pour objectif de renforcer la position de la RDC en tant que destination minière de premier plan. Et à votre avis, ça pourrait être quoi, logiquement, les actions que ces forums pourraient proposer pour justement renforcer la position de la RDC en tant que destination minière de premier plan, comme cela est énoncé dans cet objectif?
Je crois que déjà la RDC est une destination minière très importante, surtout pour les minerais qui ne se trouvent que en RDC ou bien principalement en RDC. Donc on sait très bien que pour tout ce qui est coltan, cuivre et autres minerais importants, les 3T, la RDC est très recherchée comme destination parce qu'elle a justement beaucoup de ses ressources. Je crois que pour que le secteur minier puisse être aussi un outil de développement au pays, ce que est souhaitable évidemment, et dont parlait Willy mais aussi Placide, c'est que évidemment il faut assainir le secteur, que ce soit le secteur industriel ou bien le secteur artisanal. Le secteur artisanal qui aujourd'hui, il y a beaucoup de soucis par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'insécurité, les conditions environnementales dans lesquelles travaillent les artisanaux. Et puis au niveau du secteur industriel, il faut aussi assainir évidemment toutes les voies de financement et puis aussi la répartition des taxes et d'autres impôts qui sont prises par l'État. Parce que jusque-là, même si la RDC est le scandale géologique dont on parle depuis très longtemps, ça n'a pas apporté ce que ça devrait apporter au peuple congolais.
Willy Kalingai, peut-on dire qu'avec cette 19e édition de la DRC Mining Week, la RDC est à la croisée des chemins en ce qui concerne l'avenir de l'exploitation de ces minerais?
En tout cas, ça fait déjà un bout de temps qu'on est dans ce que j'appelle appeler les triangles stratégiques, parce que comme disait Placide, nous avons le sud-ouest, donc ici où l'exploitation s'est faite relativement dans la paix, mais nous avons aussi malheureusement dans le nord et le nord-est là, où l'exploitation s'est faite sous les bandes armées. Donc notre pays devrait choisir la paix, parce que si la paix ne rentre pas, eh bien, nous aurons des difficultés pour pouvoir assainir cet environnement. Il faut reconnaître que la plus grande problématique de l'exploitation minière vient aussi de ce qu'a dit Stéphanie, de l'artisanat. Parce que c'est quand vous regardez la bande de la minéralisation de notre pays, à partir simplement du nord de l'Ituri jusqu'au nord du Katanga, vous allez voir que c'est l'exploitation artisanale qui prédomine. Et cette carte de la minéralisation correspond à la carte du conflit. Les deux cartes se superposent. Donc là où il y a des minéraux, c'est là où il y a les conflits. Il y a donc intérêt à ce que on peut faire la paix en cessant de se tuer dessus, mais on peut aussi faire la paix en industrialisant. Donc là où il y a l'exploitation industrielle, on a tendance à croire que les groupes armés se retirent. Là où il y a par exemple Kibali, on n'a pas de problème là-bas. Donc c'est l'industrialisation, l'exploitation industrielle qui permettra de stabiliser l'exploitation minière. Nous sommes bel et bien dans une position stratégique extrême. Au sud, c'est la question de la transformation locale. Oui, nous avons des minéraux, oui, nous les exportons généralement vers une seule destination, mais le temps est venu pour que ces minéraux soient transformés localement. C'est ça, même le deuxième défi de ce séminaire, de cette réunion, parce que la transformation locale permettra non seulement d'arriver à des produits à valeur ajoutée, mais elle va permettre aussi au pays de faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui la transition énergétique. D'où la question des batteries électriques qu'il faudra fabriquer à partir du lithium qui est produit au Congo. Donc nous sommes en train, effectivement, en tant que pays, de boucler le cycle de production complet, où nous partons du minerai vers le produit fini. Et si nous arrivons à mettre en place des produits finis dans le pays, au travers de mécanismes de traçabilité, alors nous aurons vraiment fait le pas décisif qui manquait à ce pays.
Merci, on prend une petite pause avec justement à la croisée des chemins de Julio Iglesias et on revient juste après.
À la croisée des chemins, parfois les rêves s'envolent, parfois se quittent les mains qui forment la farandole. À la croisée des chemins, on se regarde en silence, on se quitte derrière. N'est pas celui des vacances. Tu partiras sur ta route, je partirai sur la mienne. Chacun pour soi vers notre destin, chacun pour soi vers la peine. Tu partiras sur ta route, je partirai sur la mienne. Chacun pour soi vers notre destin, chacun pour soi vers la peine. À la croisée des chemins, ce n'est pas le ciel d'orage, mais c'est les gris quotidiens. Couleur de notre voyage, à la croisée des chemins. On a peur de demi-gestes, peur de gâcher ce matin. Le peu de temps qui nous reste, tu partiras sur ta route.
C'était à la croisée des chemins de Julio Iglesias. Julio Iglesias, cette icône de la chanson qui n'est plus à présenter, qui a totalisé au début de l'année 80 ans d'âge. On revient à l'actualité de cette semaine. Les députés nationaux ont adopté mercredi 12 juin le programme du gouvernement sous-minois, chiffré à 92 milliards de dollars et s'étend sur les 5 prochaines années. Avec cette dotation, les représentants du peuple ont investi cette équipe gouvernementale après 8 heures de débat général et la réplique de la première ministre Judith Suminois. Sur 405 élus présents à l'hémicycle, 397 ont voté pour l'investiture du gouvernement et 8 autres se sont abstenus. D'après la première ministre, ce programme est structuré en 6 piliers et 52 axes stratégiques. Ces 6 piliers sont la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la création d'une économie plus diversifiée et plus compétitive. Willy Kalenga, vous êtes journaliste, vous êtes directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Vous avez souhaité faire une analyse sur les chances du gouvernement sous-minois au regard des défis actuels. On vous écoute.
En tout cas, il faut d'abord féliciter Madame la Première Ministre pour le courage, pour la détermination, mais surtout aussi pour l'analyse, parce qu'elle a offert un travail important. Ceux qui connaissent les questions économiques du pays se sont rendus compte qu'il y avait effectivement de la matière. Mais en même temps, il y a une crainte, c'est que l'opportunité d'une telle démarche doit aboutir à des résultats. C'est comme ça que nous pensons qu'il faut absolument que notre Premier ministre et le gouvernement entier évitent l'éparpillement et la gestion sur les urgences. Parce qu'il y a tellement d'urgences dans le pays, au point que quand les ressources de notre pays vont réellement dans les urgences, mais nous partageons, et au fil des années, nous n'avançons pas. Il y a eu beaucoup de réformes qui ont été mises en place dans ce pays, mais qui ne sont inachevées. Et moi, j'ai pensé que pour pouvoir un peu donner de la matière et surtout encourager le gouvernement, j'ai quand même repéré pour moi-même, en ce qui me concerne, 6 actions majeures, 6 activités majeures, parce que le diagnostic a déjà été fait. Vous savez que le gouvernement doit protéger le pouvoir d'achat et créer des emplois. Et les dernières analyses nous indiquent que entre 2024 et 2030, donc à peu près 5 ans, 6 ans, le gouvernement doit créer, promouvoir en tout cas, au moins 1,5 million d'emplois par an pour pouvoir absorber les désirs en emploi que nous avons. Ça demande des moyens. Mais comment augmenter ces moyens? C'est pour ça que je venais vous déposer quelques actions. Je considère qu'elles sont importantes, même si on peut déjà à l'origine penser qu'elles ne sont pas liées. Par exemple, pour moi, une des actions majoritaires, parce qu'il faut prioritaire, excusez-moi, c'est que le gouvernement doit travailler sur le corridor de l'Obito. C'est un corridor qui permet à ce que l'exportation des minerais dans le pays puisse passer par une route que nous pouvons maîtriser. Aujourd'hui, le tronçon Kolwezi-Dilolo, ce tronçon n'est pas réhabilité et pourtant, du côté de l'Angola, ce tronçon est réhabilité. Il y a un deuxième travail essentiel sur lequel il ne faudrait pas tergiverser, c'est de réhabiliter aussi les corridors nationaux. Ça signifie comment prendre les matières premières que dans le pays, les exporter en passant par le corridor national de Sakanya à Matadi. Ces deux choses-là doivent être maintenues pour pouvoir augmenter les niveaux de recettes. Troisième chose, donc, qui est liée aux deux, c'est de faire des états généraux des chemins de fer. Ce pays est excessivement grand. Les transports de marchandises par route et par avion ont un impact exponentiel sur le coût de la vie. Donc, il faut, dès les premiers mois, organiser les états généraux des chemins de fer. Mais il faut créer, le plus vite possible, il faut créer une bourse de valeur. Parce que beaucoup d'investisseurs ne viennent pas dans ce pays parce qu'ils ne veulent pas prendre des risques d'investissement. Alors, le moment est venu pour faire la mutualisation des risques. Si nous avons une bourse de valeur, si nous voulons avoir 1 million de dollars et que dans le pays, il est possible d'avoir 1 000 dollars pour 1 000 personnes, nous avons les 1 million de dollars. Il faut donc créer une bourse de valeur afin que les Congolais, l'épargne nationale, soit récoltée pour que le pays soit financé. C'est comme ça que je voulais absolument insister sur ça. Évidemment, il y a d'autres actions, notamment contre la lutte contre la corruption. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais il faut parachever les structures économiques essentielles et donner à notre pays le moyen de sa croissance. Et ce moyen passe par l'achèvement de cette réforme sur les transports, l'achèvement sur la bourse, l'achèvement sur l'investissement. Voilà un peu de manière ramassée les éléments que je voulais mettre à la disposition de nos auditeurs.
Oui, et Willy Kalengai, après avoir, n'est-ce pas, relevé les actions ou les activités qui peuvent être menées par la Première Ministre pour arriver à atteindre cet objectif, celui de la création des emplois, la question que les gens se posent, c'est celle de savoir si, au-delà même de la bonne foi de Mme Souminoua, est-ce que l'apaisanteur ne sera pas le système politique dans lequel elle va évoluer?
En tout cas, vous avez raison et je dois encore saluer une deuxième action qui vient d'être menée. Le président s'est doté d'un nouveau directeur de cabinet qui vient du monde des investissements, qui vient du monde de la rationalité économique. Parce que en réalité, ce qui plombe l'économie congolaise, c'est que les partis politiques, les systèmes politiques du pays considèrent les postes, considèrent l'administration comme un gâteau qu'il faut se partager. Et les petites ressources qui viennent dans ces différentes administrations sont en réalité partagées par les gens. Vous savez, les hommes politiques font de l'argent public, ils en font un objectif. L'argent public, c'est comme la semence. On ne mange pas la semence. La semence, on la met dans la terre pour qu'elle produise des effets et tout le monde va se retrouver parce qu'elle est multiplicatrice des revenus. Donc, à partir du moment où la Première ministre va indiquer des objectifs et donner à chaque ministère des termes de référence clairs, elle devra accepter de résister aux influences politiques. Ces influences politiques interviennent de quelle manière? Par exemple, dans le recrutement des cadres. Si on doit prendre des cadres dans les ministères, ces cadres doivent venir même des partis politiques, mais qui doivent venir des systèmes de compétences. C'est la première des choses. Il ne faut pas utiliser le pouvoir politique pour caser des hommes incompétents. On ne case pas des hommes dans l'administration publique, ils deviennent des poisons pour le pays, ils ne font rien, ils deviennent budgétivores et ils ont le pouvoir de vous descendre parce que les systèmes de chantage politique existent. Mais je pense et je suis heureux parce que j'ai compris que le président de la République lui-même, il avait déjà dit dans son premier mandat, à la fin, en disant « des erreurs ont été commises, il est temps de renoncer aux erreurs du passé ». Parmi ces erreurs du passé, c'est le népotisme, le clientélisme, la gabegie, le détournement des ressources publiques, mais surtout, aussi surtout, un usage abusif de l'incompétence. C'est ça que je crois qu'il faut comprendre, et je pense que notre Premier ministre, qui vient d'un système de rationalité, qui a été ministre des Plans, qui a travaillé au PNUD, et qui a la force morale nécessaire pour éloigner le mal qui est l'incompétence assumée.
Merci. Placide Nzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu. Le programme d'action de la Première ministre, en fait du gouvernement souminois, contient 6 piliers, notamment la création d'emplois, la protection et le renforcement du pouvoir d'achat des Congolais, la pacification du pays, la création d'une économie plus diversifiée et plus compétitive. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est déjà entendu et tous les gouvernements qui l'ont précédé ont fait des promesses similaires? Mais après, les gens ont déchanté. Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire la différence?
Effectivement, elle fera la différence. Elle ferait la différence si elle avait associé tous les ministres à ces chantiers, de ces programmes. Parce que tout simplement, on comprend que c'est son programme. En tout cas, on n'est pas capable d'affirmer que tous les ministres ont été contactés pour y amener leur touche avant la présentation de ce programme. Alors, par conséquent, on trouve un programme très grand où on ne sait pas même dire qu'est-ce qui est priorité des priorités. Et ça, c'est un problème très sérieux. Il fallait que madame se focalise sur ce qui est prioritaire. En lisant le programme, on trouve que c'est un programme qui peut prendre même 30 ans, alors qu'elle est là ne fût-ce que pour 5 ans. Alors, elle présente un programme qui nécessite des efforts sur une période de 30 ans. Là, c'est une inadéquation. Mais aussi, c'est le personnel chargé de réaliser ce programme, notamment les ministres. Ont-ils des capacités pour réaliser ce programme? Je crois qu'il faut refaire un programme dans lequel les mêmes ministres donnent leur point de vue ou même leurs idées qui seront capables de réaliser au lieu de leur proposer un programme monté dans des cabinets d'experts ou parfois par la première ministre, mais dont ils ne seront pas capables d'exécuter. C'est pourquoi parfois il y a une adéquation entre politique et les hommes commis à l'exécution de la politique. Alors chez nous, ça se répète chaque fois et c'était déjà entendu comme les auditeurs l'ont dit, mais nous pensons qu'à ce moment même, il faille maintenant élaborer un programme du pays et non un programme du gouvernement. Parce que ce programme du gouvernement contient un chapelet de bonnes intentions, mais qui sont parfois irréalisables. Mais de toutes les façons, moi je crois que la première ministre devrait aussi tirer les priorités des priorités sur lesquelles elle va travailler pendant les 5 ans, et ça ferait du sérieux dans ce programme-là. Sinon, ça sera ne plus qu'un travail scientifique et technique, mais qui n'aura pas d'effet sur la vie des Congolais. Pour nous, effectivement, il y a des axes comme la sécurité du pays qui vraiment ont trouvé un écho favorable dans le budget, mais aussi le même problème se pose. Depuis un certain temps, le gouvernement qui lui a précédé a investi beaucoup de moyens dans la sécurité. Mais on est en train d'assister à des arrestations chaque jour, des limogeages chaque jour, des gens qui ont détourné encore les mêmes moyens, et les mêmes moyens n'arrivent pas à destination. Donc, il faut la rigueur plus dans les mécanismes de gestion de l'État. Parce qu'il faut se rassurer que ces moyens qui seront mis à la disposition de l'État. Bon, je reviens vers vous, Guy. Évaluez vous-même le programme des 145 territoires. Vous allez voir les gâchis qu'il y a eu dedans et vous dire, est-ce que ce sont les mêmes hommes qui ont fait des gâchis dans ce même programme qui vont gérer encore ce programme du gouvernement que Madame la Première Ministre est en train de nous présenter. Je crois qu'il faut en tout cas de vraies réformes et des changements structurels au sein des institutions de la République pour espérer que ce programme soit réalisable.
Merci Madame Stéphanie Waltorf. À votre avis, quels pourraient être les atouts que pourrait détenir la Première Ministre Souminois pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas, contenus dans ces programmes? Parce qu'il y en a qui pensent que c'est un programme qui paraît irréaliste.
Bon, moi, d'abord, je ne crois pas que ça dépend d'une personne. C'est clair que la Première ministre, elle doit diriger le gouvernement, mais elle ne va pas elle-même changer tous les problèmes structurels du pays. Et je ne vois pas en quoi elle est nécessairement différente d'autres premiers ministres. Évidemment, on doit leur donner le temps de nous montrer ce qu'ils vont faire, s'ils vont tenir parole. Mais tous les piliers dont elle parle, ce sont des piliers qui sont liés à la croissance économique. Et pour ça, il faut énormément de changements. Et comme disait Willy, comme disait Placide, ce sont des projets qui vont prendre des années et des années et des années. Surtout le projet de création d'emplois, qui est primordial évidemment pour que les gens puissent gagner leur vie paisiblement. Tout ça, ça demande un secteur agricole qui est plus fonctionnel, qui a des routes, qui peut accéder à des marchés, la fabrication de biens qui a besoin d'électricité, le traitement des minerais, ça aussi, ça a besoin d'électricité et d'investissement. Tout ça, ce sont des choses, je veux dire, quelque part très logiques, mais qui prennent beaucoup de temps et qui ont en plus besoin d'un cadre qui est rassurant. Donc, s'il faut attirer des investissements internationaux pour pouvoir investir dans ces secteurs-là, qui sont certes des secteurs qui pourraient marcher en RDC, il faut aussi garantir qu'il y a un cadre légal, un état de droit, des garanties pour des investissements qui sont là. Sinon, on va tout simplement tourner en rond en train de parler. Et donc, moi, je me demande, est-ce que réellement c'est ça l'intention de ce nouveau gouvernement? On a attendu 6 mois pour l'avoir. On sait qu'il y a eu beaucoup de tractations politiques derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement qui va vraiment se pencher sur le travail? Je ne sais pas. Je l'espère, bien sûr, mais de toute façon, le travail, l'ordre du travail est très élevé et les choses ne changeront pas d'un jour à l'autre. La dernière chose que je voulais dire, c'est que je trouve, de mon point de vue, assez inquiétant le fait que 20% des coûts globaux pour les 5 ans prochains ans seront alloués à agrandir effectivement, peut-être aussi un peu reformer les FRDC. Je crois que nous avons déjà vu que les FRDC ont grandi à travers leur coalition avec les Wazalendo, avec la loi sur les réservistes. Et je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'améliorer les FRDC tels qu'ils sont aujourd'hui, au lieu d'ajouter encore d'autres personnes dedans qui ne sont peut-être pas professionnellement formées, qui ne sont pas équipées, qui n'ont pas les ressources, qui ne touchent pas régulièrement leur salaire? Donc ça aussi, je trouve ça très inquiétant parce que c'est quand même un montant assez important, 20%. Évidemment, le pays est en guerre, il doit se défendre, c'est très nécessaire, mais il y a peut-être d'autres façons pour arriver à avoir une armée plus professionnelle.
Merci, chères auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. On va donc écouter Novelas d'Héritier Watanabe, chanson contenue dans son nouvel album Au chemin de la gloire. Et on revient juste après.
Maître Christian Loukoussa. DG Christian Mea, Daniel Chibang de Timasou. Le très très nécessaire, Kaka Marius Miko.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur la 19e édition de la DRC Mining Week qui se tient à Lubumbashi. Nous avons également analysé les chances du gouvernement souminois au regard des défis actuels. Participe à cette émission, Willy Kalenga, il est journaliste, il est directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Placide Nzilamba, il est membre de la société civile du Nord Kivu et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud. Madame Stéphanie Walthoff, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Au Nord Kivu, un calme précaire s'est observé vendredi sur la ligne des fronts autour du village Butalongola, près de 10 km de la cité de Kanyabayonga. Cette zone est située dans la partie nord de la chefferie de Buito, en territoire de Rutshuru. Selon les sources sécuritaires et civiles locales, les rebelles du M23 RDF venus de Bulindi ont une nouvelle fois tenté d'occuper Butalongola jeudi, avant d'être repoussés par l'armée congolaise soutenue par les combattants des groupes armés locaux. Pendant le déroulement de ces combats, 6 bombes de mortier larguées depuis cette zone de combat sont tombées dans les environs de la commune de Kanyabayonga, blessant une fillette de 12 ans. Nos sources estiment que la situation demeure volatile dans cette zone, d'autant plus que, dans la matinée de vendredi, quelques tirs sporadiques y ont été entendus. Madame Stéphanie Walthoff, vous avez souhaité nous parler de ces sujets en les formulant ainsi. La SAMIR RDC, le péril d'une approche principalement militaire, quid du processus de Luanda? On vous écoute.
Oui, merci beaucoup Guy. Voilà, donc moi je constate de loin, évidemment, Placide pourra certainement ajouter d'autres éléments, c'est que la situation à l'est de la RDC est devenue vraiment hyper militarisée. Nous avons non seulement les FRDC, les Wazalendo, nous avons les Burundais, les Ougandais, nous avons maintenant la SAMI RDC, nous avons des mercenaires. Et malheureusement, ça n'a pas changé la donne. Nous avons vu dernièrement que le M23 a pu prendre encore beaucoup de territoire et continue à se battre. Alors pour moi, dans la réflexion que je fais, je me dis il y a quand même des limitations à une approche qui est principalement militaire. D'abord, ce qu'on a pu déjà constater, c'est que ce processus est assez lent. On est maintenant, la RDC est en guerre depuis 4 ans presque. et il y a un coût énorme en termes de vie civile. Il y a un impact horrible sur la situation des gens qui vivent au Nord Kivu, avec des crises humanitaires qui s'enchaînent. Donc c'est très coûteux en termes de vie humaine, et des soldats aussi bien sûr, et aussi en ressources, quoi. C'est très cher de mener une guerre pendant 4 ans. Jusque-là, cette hypermilitarisation n'a pas encore changé la donne. Il n'y a pas de succès garanti par cette approche. Et puis, il y a un risque d'embrasement régional, à mon avis, parce que même si aujourd'hui, on voit que le M23 est beaucoup plus soutenu par le Rwanda que par l'Ouganda, on sait qu'il y a aussi un certain soutien qui vient de l'Ouganda. Il y a aussi des tensions entre l'Ouganda et le Rwanda. Et en même temps, on a les Ougandais qui sont en train de se battre avec les FRDC contre les ADF. Donc il y a quand même énormément de risques que tout ça devient entremêlé et que les ambitions et les tensions commencent à aller au-delà du Nord Kivu. Donc une contingent qui pourrait se passer vers le Sud Kivu, vers le Nord, même au Nord de Kanyabayonga, on sait que c'est là où est un des points de pression actuellement. Donc tout ça, ça pour moi, ça me pousse à penser que vraiment il faut qu'on réactive le processus de Luanda. Je crois que aussi, finalement, une défaite militaire du M23, si elle est momentanée, comme on a vu en 2013, ne va pas résoudre le problème fondamental entre la RDC et ses voisins. Et c'est l'une des choses qui, pour moi, manque depuis très longtemps. C'est une approche vraiment globale pour résoudre les problèmes une fois pour toutes entre la RDC et ses voisins, qui n'a pas encore été essayée. Mais aujourd'hui, on voit que le processus de Luanda est un peu... ne bouge pas. Ça fait plus que 3 mois que les présidents se sont pas parlé. Il y a des médiations et des prises de contact, à ce que je sache, au niveau des ministres des Affaires étrangères, ce qui est déjà important, mais on n'avance pas. Et en attendant, on a des avancées sur le territoire. On a encore une fois des gens qui meurent, des bombes qui tombent sur des camps de réfugiés. Donc on n'a pas vraiment le luxe du temps pour résoudre cette situation. Je crois qu'il y a la possibilité, je ne dis pas du tout qu'il faut changer le processus de Luanda, je crois que c'est le bon, et je crois que les Angolais sont en train d'essayer de faire leur mieux, mais sans un encadrement, peut-être c'est le mauvais mot, mais sans une pression qui vient s'ajouter au processus du Luanda de la part de la communauté internationale, je crois qu'on ne va pas voir nécessairement des avancées importantes dans ce processus. Et pour moi, il faut mettre plus de pression sur le Luanda. On sait très bien quel est son rôle dans ce conflit. Et il faudrait aussi essayer de trouver peut-être, et je sais que c'est pas très populaire en RDC du tout, trouver une voie pour que le président puisse parler aussi avec le M23. Mais de toute façon, il faut dégager ce processus, il faut qu'il marche, qu'il avance, que les négociations au niveau des présidents continuent, parce qu'on est un peu nulle part là-dedans. Au milieu de tout ça, on a la SAMI RDC qui est arrivée. On a 3000 soldats sur 5000 qui doivent se déployer selon le plan opérationnel de la SADC. Donc, il y a encore 2000 qui manquent. Il y a des contraintes budgétaires assez sévères. Il y a un trou de 200 millions de dollars dans le budget qu'ils estiment nécessaire pour un an, qui est sur 500 millions. Et puis, évidemment, on a très bien vu que l'arrivée du SAMI RDC a causé beaucoup d'hostilité de la part du Rwanda, qui continue de s'acharner sur cette force, avec des dégâts humains pour les militaires qui font partie de SAMI RDC. Et ça, ça va encourir des risques politiques aussi au niveau de l'Afrique du Sud et des autres pays contributeurs comme la Tanzanie et le Malawi. Et donc, j'ai des craintes aussi pour un succès de la SAMI RDC, qui quand même est vue plus ou moins comme une meilleure solution que ICRAF, la force est-africaine. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue sur où nous en sommes avec la situation à l'Est.
Oui, Madame Stéphanie Woltorf, les conflits s'enlisent et tend à s'étendre à d'autres localités de la province du Nord Kivu, comme vous l'avez reconnu. Et on se pose beaucoup de questions, entre autres, au vu des combats auxquels on assiste depuis bientôt 2 semaines sur le terrain. Est-il encore possible de parvenir à une désescalade?
Oui, je crois absolument qu'il est possible d'arriver à une désescalade. Mais à mon avis, ça doit partir, on va y arriver en mettant de la pression sur le Rwanda. Ça doit être l'une des premières choses qui doit se faire. Parce que je ne vois pas comment, si on ne décourage pas le Rwanda d'arrêter son soutien au M23, on ne verra aucun changement. Et jusque-là, même s'il y a eu des sanctions sur des personnes ciblées qui sont rwandais, ça n'a rien changé. L'approche est encore plus agressive qu'avant. Et donc, si on veut voir même un cessez-le-feu qui va tenir quelques semaines pour qu'on puisse vraiment discuter du contentement et puis du reste du plan de Luanda, parce qu'il y a une feuille de route qui existe depuis presque 2 ans maintenant, il faut vraiment qu'on mette de la pression sur le Luanda. Les conséquences jusque-là, pour moi, c'est très clair que c'est que la RDC qui les porte. C'est principalement les civils congolais qui portent les conséquences de cette guerre. Et le Luanda n'a pas encore porté les conséquences de cette guerre. Et je crois qu'il est primordial qu'on commence avec ça. Bien sûr, il y a énormément de choses qui doivent se faire aussi du côté de la RDC. Et d'abord, il faut vraiment que la RDC arrête de travailler avec les FDLR. On sait qu'il y a des pas qui ont été pris, mais il faut qu'ils avancent, qu'ils puissent montrer des aspects concrets de ce changement.
La RDC n'a jamais reconnu, Madame Stéphanie, la RDC n'a jamais reconnu officiellement collaborer avec les FDLR.
Non, bon, ça fait longtemps, depuis l'époque de Kabila Père. Mais non, mais par contre, ils ont quand même passé une loi pour que les militaires congolais se font sévèrement punir s'ils collaborent avec les FDLR.
Merci.
Et ça c'est un aspect important, à mon avis, parce que il faut que les deux côtés mettent quelque chose sur la table, même si les FDLR, comme je disais, ne constituent pas une menace pour le Luanda aujourd'hui. C'est comme ça que se passent les négociations.
Merci. Merci, Placide Nzilamba. Vous qui vivez dans cette province, le Nord Kivu, est-ce que vous entrevoyez le bout du tunnel? Pensez-vous que cette question est sur le point d'être réglée?
Non. En tout cas, il faut l'affirmer. La question est loin d'être réglée, d'autant plus qu'il s'observe un langage de sourds entre les deux protagonistes principaux, notamment le Luanda et la République démocratique du Congo. Comme Madame l'a dit, le processus de Luanda est au ralenti. D'ailleurs, il vient de stopper. On ne sait pas, il reprendra à quand. Donc, ça montre que les choses ne vont pas s'enliser actuellement. Mais aussi, d'autres acteurs continuent à se manifester dans cette crise qui continue à l'exacerber. Vous savez que, oui, parfois, on cite le Luanda seul, mais on oublie l'Ouganda. L'Ouganda, qui est un pays d'hébergement de plusieurs des leaders, des cadres du M23, RDF et même AFC, comprenez, la donne a pris une autre allure avec Corneille Nangaa. Si c'était le M23 seul, c'était gérable parce que, bon, ils n'ont pas beaucoup d'ambition et c'est pour dire qu'ils doivent être intégrés dans l'armée, dans la police et consorts. Mais avec l'arrivée de Corneille Nangaa, cet aspect fait changer la donne. Parce que tout simplement, il y a maintenant une ambition politique de reconquête du pouvoir et de prendre ce pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Parce que lui, il ne gère que pas renverser le pouvoir de Kinshasa. Alors, pour nous se dire, aujourd'hui, on doit quand même se mettre en tête qu'on est en face d'une guerre qui commence comme celle de l'AFDL, qui avait commencé par dire qu'il faut détruire les camps des réfugiés qui étaient proches de la frontière du Luanda, mais après l'entrée en danse de M. Laurent Désiré Kabila, c'était transformé en une guerre de reconquête du pouvoir jusqu'à Kinshasa. Donc c'est pourquoi il faut vraiment un éveil de nos autorités congolaises pour comprendre que la donne a changé dans cette dynamique et qu'il faut quand même prendre des mesures à la hauteur de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. À notre niveau, vous allez voir, si vous arrivez aujourd'hui au Nord-Kivu, vous comprendrez que les stratégies sont les mêmes. Comme vous l'avez dit, les M23 ne se gênent de tirer des bombes sur des populations civiles dans la cité de Kanyabayonga. Et la logique est de faire Kanyabayonga comme la cité des sacs. Partout où ils ont obtenu des résistances, ils aient la force pour semer la terreur au sein de la population et laisser ce village comme des villages fantômes. Aujourd'hui, ça qui est inhabité, et on force aussi la population de Kanyabayonga et environ de fuir, de quitter, parce que tout simplement, il y a de la résistance.
Donc, merci.
Si le gouvernement de la République démocratique du Congo opte pour la solution militaire, il doit vraiment investir dans cette solution militaire et la contrôler, la coordonner et se rassurer que cette solution va aboutir.
Merci.
À place de tergiverser.
Merci. Willy Kalengai, on a l'impression qu'on laisse les armes parler et qu'en dehors de l'approche militaire, aucune autre démarche n'est possible aujourd'hui.
Justement parce que le conflit à l'Est est encadré aujourd'hui par les processus de Nairobi et celui de Luanda. Il ne faut pas oublier que la signature de ces deux processus, c'est déjà au 12 de 2022. Nous sommes en 2024 et les deux processus sont dépassés. Nairobi avait comme focus l'intervention de la sous-région pour pouvoir désarmer les groupes armés et pacifier l'Est. Et au niveau de Luanda, il s'agissait de créer le dialogue entre le Rwanda et la RDC. Voilà, les deux processus ont montré leurs limites, parce qu'en traitant la bonne foi et les actes sur terrain ont envenimé la situation. Moi, je pense qu'il faut, et c'est ça même, je le comprends, il faut une nouvelle initiative qui dépasse un peu le cadre de la sous-région. Seules les Nations Unies, les conseils de sécurité, peuvent aujourd'hui entamer une nouvelle réflexion comment intégrer les nouveaux paramètres dont parlait tout à l'heure Placide, parce que les acteurs se sont multipliés, et quand on a pris les deux accords, donc c'est de Luanda et c'est de Nairobi, il n'y avait pas la multiplication des acteurs aujourd'hui. Il faut aller au cœur de la question, il faut obtenir un cessez-le-feu, il faut obtenir un retrait des troupes étrangères sur le territoire congolais. C'est des choses qui ont déjà une jurisprudence. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda se retire de notre territoire, ce n'est pas la première fois que l'Ouganda c'est de notre territoire. Il s'agit aujourd'hui, et je pense que c'est ça qu'il faut que les Nations Unies prennent comme modus operandi. Il existe effectivement des conflits entre les différentes nations, les trois nations. Ces conflits peuvent trouver leur solution au niveau des chefs d'État, au niveau des structures des Nations Unies. Mais il existe un problème réel, un problème de fond, c'est le problème des réfugiés qui sont dans les trois pays. Ces réfugiés qui se reconnaissent soit d'être des Ougandais, soit d'être des Congolais, soit d'être des Rwandais. Cette question est essentielle parce que c'est dans les viviers des réfugiés que naissent les groupes armés et naissent les rébellions. Tant qu'on n'a pas extirpé des pays voisins les différentes raisons des réfugiés, parce qu'il y en a beaucoup au Rwanda qui se réclament congolais, il y en a en Ouganda qui se réclament congolais, il y en a au Congo qui se réclament ougandais, il y en a au Congo qui se réclament rwandais. Cette question des réfugiés, elle est au cœur de ce conflit. Au début, on pensait que c'était simplement l'exploitation illégale des ressources naturelles. Oui, c'est une des raisons, c'est une motivation. Elle est au cœur du financement de la guerre. Mais ça persiste parce qu'il y a ce que moi j'appelle une chaîne d'aide historique qui vient de ces réfugiés. Le temps est sans doute peut-être venu de donner la parole aux réfugiés de ces trois pays pour que ces réfugiés examinent les conditions de retour dans leur pays respectif. Voilà un peu ce que je peux dire. Et les Nations Unies peuvent initier avec les représentants qu'on vient de nommer cette nouvelle initiative.
Merci, on prend une petite pause en écoutant Bopesa Elitea de Jano Bomenga et on revient juste après.
Tunina baboti baye, bapesa yelite ya. Sotinga na kosilika ubako samatanga, kamoto mabeo. Azimbi, bapesa yelite ya. Okay.
C'était Jeannot Bombenga dans Bopesa Elitea, Jeannot Bombenga Ewando, une des icônes de la musique congolaise moderne, a aujourd'hui 90 ans, mais continue de se produire régulièrement. Et je rappelle que nous avons dans cette émission Willy Kalenga, il est journaliste et le directeur général de Géopolis, un magazine spécialisé dans les domaines des ressources naturelles. Placide Mzilamba, membre de la société civile du Nord Kivu, et en ligne depuis Johannesburg en Afrique du Sud, Madame Stéphanie Walters, elle est chercheuse à l'Institut Sud-Africain des Relations Internationales. Au Nord Kivu, deux jours après l'attaque attribuée aux rebelles des EDF à Maikengo, dans le secteur des Bapere du territoire de Lubero, la population locale est sous le choc. Le bilan toujours provisoire de cette attaque s'élève à 42 civils tués, une dizaine de personnes blessées et quelques maisons incendiées par les assaillants. Selon les autorités provinciales, les EDF ont tué pas moins de 150 personnes dans cette région depuis la semaine dernière. Placide Zilamba, vous avez souhaité nous parler de la présence de l'EDF dans les territoires de Lubero, les dynamiques de la guerre menée par le M23 RDF et AFC et la position du gouvernement de la RDC. On vous écoute.
Effectivement, merci Nicolas. Vous comprendrez avec moi que la guerre au Nord Kivu comprend deux machines criminelles qui ont été développées sur cette province, notamment le M23 et les EDF. Et depuis tout ce temps, depuis 2014, les EDF opéraient principalement dans les territoires de Beni. Et ils n'ont eu que des assauts sur la ville de Butembo l'année passée pour venir libérer les leurs, mais retourner encore en territoire de Beni. Mais il est étonnant aujourd'hui que les EDF parviennent en territoire de Lubero, encore dans le secteur de Bapere. C'est un secteur où une entité reconnue de par sa richesse minière de l'or. Alors, à notre niveau, c'est dire que l'EDF s'étend maintenant au Nord Kivu. Parce que tout simplement, on décriait les opérations qui étaient menées à Beni par l'armée ougandaise et l'armée congolaise, et on lançait les cris d'alerte pour leur dire que ces opérations consistaient à éparpiller les EDF dans les forêts congolaises et les éloigner des frontières avec l'Ouganda. Donc l'Ouganda était dans une guerre d'éloigner l'ennemi de ses frontières et le partir dans les forêts congolaises. Et aujourd'hui, l'ennemi est dans le territoire de Lubero, où il a tué, comme vous l'avez dit, une quarantaine de civils. Alors, aujourd'hui, ce qui étonne, c'est que l'ennemi vient tuer à Lubero, alors que le M23 aussi est en train d'entrer en territoire de Lubero. Nous voulons dire que là, ils s'observent déjà des choses qui doivent interpeller les autorités congolaises pour dire, soit comme les FRDC et leurs alliés, notamment les Ouazalendo, ont résisté jusqu'à à bloquer les avancées du M23 sur Kanyabayonga et la porte sur Lubero. Alors, les EDF viennent perturber les choses en territoire de Lubero pour que les FRDC et leurs alliés dégarnissent les positions à Kanyabayonga pour encore rentrer vers Mangorujipa ou à secteur de Bapere, afin que de s'occuper des EDF et laisser les champs au M23. Nous pensons que ces attaques peuvent être complémentaires et notre gouvernement congolais devait déjà prendre cette question avec beaucoup de sérieux et non rester dans sa position parfois qu'on considère ambiguë, parce qu'on ne sent pas en tout cas trop d'efforts pour libérer tous les espaces conquis. Imaginez-vous sur le terrain, l'armée brille par deux stratégies ou deux techniques. C'est d'abord les replis stratégiques ou les défensifs. Si ils seront malmenés dans les défensifs, ils vont faire un repli dit stratégique. Et de ces replis stratégiques, on ne sent pas l'intention d'aller reconquérir les entités sous l'emprise de l'ennemi. C'est pourquoi nous disons que le gouvernement national, avec le président de la République à la tête comme commandant suprême, devait se pencher à cette question et vouloir savoir pourquoi cette question n'avance pas, pourquoi de tels comportements au sein des FRDC et pourquoi ces extensions de l'ADF vers le territoire de Lubero et prendre des initiatives ou des mesures qui doivent quand même limiter cette expansion-là, d'autant plus qu'elle devient très dangereuse et la province du Nord Kivu risque en un moment donné d'être dans une explosion de sécurité qui sera incontrôlé et parfois le pouvoir risque de disparaître en un certain moment.
Merci.
Voilà pourquoi nous avons tenu quand même à placer ce sujet devant tous nos auditeurs et tous ceux qui ont qui auront le temps de suivre et qui donnent aussi leurs avis parce que ça devient très dangereux au nord.
Merci, Madame Stéphanie Walters. Comment vous analysez la résurgence des EDF alors qu'on pensait que les opérations conjointes FRDC et UPDF allaient réduire la capacité des nuisances de ces rebelles?
Oui, je crois que depuis leur résurgence, même bien avant Shuja, opération Shuja, on a toujours vu que l'ADF est très flexible, échappe facilement à des opérations militaires, que ce soit ougandais, congolais ou bien au MONUSCO, FRDC. Et donc, évidemment, ils ont des tactiques qui sont efficaces. Ou bien, de l'autre côté, il y a des tactiques qui sont moins efficaces, ce qui m'étonne un tout petit peu, parce que surtout de la part des Ougandais, parce que si j'ai bien compris, pour Museveni, quand même, il considère que les ADF sont une vraie menace à son pouvoir. Donc, est-ce qu'il n'a pas donné les moyens à son armée? On connaît les contraintes de l'armée congolaise, mais l'armée ougandaise, normalement, fonctionne peut-être un peu mieux. Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans cette opération pour réellement mettre fin à cette rébellion qui a tué autant de civils dans la zone où il opère?
Merci. Willy Kalenga, nous allons finir cette émission avec vous. Comment faut-il régler de manière durable cette problématique EDF?
Vous savez, il faut que le Congolais ait le courage d'accepter que l'Ouganda est un pays agresseur et que cette rébellion d'origine ougandaise est en réalité une fabrication de l'Ouganda pour maintenir la pression sur les régions minières, les régions prospères du Congo. Parce que l'Ouganda a les moyens, comme vient de le dire Stéphanie, d'éradiquer cette rébellion. Comment pouvons-nous accepter qu'une rébellion destinée à prendre le pouvoir à Kampala opère dans une ville comme Butembo et dans la sous-région? Il ne faut quand même pas renverser Museveni en prenant la ville de Butembo. Non, c'est des hommes qui ont été mis en place, comme l'a dit tout à l'heure Placide, des machines de guerre destinées au Congo et non du tout, pas du tout, de l'autre côté. Ce qui a été fait avec l'IDF, ce qui est fait avec l'M23, c'est cela, ce sont des machines alimentées par les pays comme le Rwanda et l'Ouganda, mais dont la réputation mondiale voudrait qu'ils soient des rébellions aux pays voisins. Non, la même chose est dite avec les FDLR. Vous savez qu'il y a des Rwandais qui avaient été sous le label du Haut Commissariat des réfugiés, qui ont été rapatriés vers le Rwanda, normalement, parce qu'ils étaient encore au Congo. Et ces Rwandais sont revenus ici et ils sont devenus des FDLR répondant au mot d'ordre du Kigali. C'est des machines de guerre, c'est comme ça que je disais. Si la communauté internationale, si elle ne prend pas la peine de prendre une nouvelle initiative, elle va obliger les Congolais d'aller jusqu'au bout du bout. Et la montée en puissance de l'armée congolaise, il ne faut pas du tout prendre comme une petite opération. Le jour où le Congo sera au rendez-vous de sa puissance, eh bien, ni l'Ouganda, ni le Rwanda n'arrêteront. Et si les deux pays ne peuvent pas arrêter le Congo, ce n'est pas la moderne personne qui l'arrêtera. Mais il faut penser positif, il faut penser pacifiste, et il est encore temps de rappeler vers leur pays d'origine ces rebelles qui sont en réalité des rebelles sous-traitants des pouvoirs qu'ils combattent.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Placide Zilamba, Madame Stéphanie Walters et Monsieur Willy Kalengai. Merci aussi à Mimi Kindou qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, DJ Daddy et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Vaccination de Simaro Lutumba dans l'orchestre Ok Jazz, chanson contenue dans l'album Testament et Baoulé, et on se retrouve le samedi prochain. Thank you.
ça fait comme ça. Na linga ki koka matanga na distance yo, tanda tonanga e komi konyo kwama. Na na kobela yo ko ki mete sele. So kinga ina e baki, na linga ki ko linga ya na mama reserve yo. So kina e baki boy, leo sakani na motema na ngaite. Ndonde banda kimea mokolo ya jendio na musa kinga na pongeo tuna kingali kamona ebite sherio fashe uso bima kibutu anabeya nabimi pona landayo dela ya buto na kobanga na komiti na matete na niblonsh edo amoni yote na zongi na kolela Kambote beya, desiso yozui, naina pasi mokoleza lio kulukangai, eko zala trotar, gana sinabosa na yo. Mokilinga inayaka, zanda tesinga nyoso na fenga kiyo, apimelinga kaka seyo, nazali maloros, loboko nalitama. Zoto na susi fele para penyo o kata vaccination ya susi o koma sardine o moto etikala na foto. Kala tongo eko sana ngai na kana pena kota ngaroma yo epayo salina bisengo oko kipete angama wananga. Salina Pisengo, Oko Kipete, Angama Wanaka.